Bonjour, c'est Simon Chevrier, vous écoutez toute première fois.
Photo sur demande de Simon Chevrier est un premier roman surprenant. Déjà par sa forme. Il s'agit d'un recueil de fragments de vie du narrateur, distillés sur plusieurs mois avant et après le confinement. Il surprend aussi par son sujet, l'histoire d'un jeune étudiant gay pris dans des tumultes familiaux et amoureux, qui tombe dans la précarité et en arrive à la prostitution pour s'en sortir financièrement. Mais surtout, ce qui m'a le plus surpris et touché est l'écriture de Simon Chevrier. Sous des airs de simplicité, elle se révèle complexe, poétique et vivante, notamment lorsqu'il raconte les rendez-vous amoureux de son personnage hors rencontre tarifée. Cette autofiction n'a pas seulement interpellé et chamboulé le lecteur que je suis, mais aussi les respectés membres du Goncourt qui ont décerné le Goncourt du premier roman à Simon Chevrier. Je vous laisse découvrir notre passionnant échange sur son livre, mais aussi sur la littérature queer ou sur les difficultés d'écrire sur des événements personnels. Toute première fois, saison 4, épisode 10, Simon Chevrier. Bonjour Simon Chevrier, nous sommes dans les bureaux des éditions Stock pour se rencontrer, pour parler de votre premier roman, Photo sur demande, qui vient d'être publié il y a quelques mois donc, aux éditions Stock et qui vient de recevoir le concours du premier roman, après avoir déjà pas mal plu aux éditeurs et aux lecteurs. Qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que tu ressens du coup? Est-ce que c'est un peu excitant? Est-ce que c'est un peu... Mais la pression aussi de recevoir ce genre de prix?
Oui, c'était clairement inattendu. En tout cas, pour moi, j'étais déjà très content d'être dans la sélection, mais j'avais du mal à me visualiser l'obtenir. c'est vraiment une grande surprise. Je suis content.
Tu disais que c'était comme attraper la queue de Mickey dans un manège, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ça m'a fait un peu cet effet-là d'avoir décroché la queue du Mickey.
Et du coup, ce métier dans lequel tu t'engages et dans lequel tu t'es déjà engagé, pour lequel tu viens d'être récompensé, c'était quelque chose pour lequel tu avais toujours rêvé, petit, genre quand on te demandait ce que tu voulais faire de la vie, tu disais écrivain?
Non, du tout, je ne m'imaginais absolument pas écrivain. En tout cas, je m'imaginais même pas écrire ce qui pourrait ressembler à un roman. C'est vraiment venu avec le goût pour la lecture et je pense que certains livres m'ont amené à l'écriture. Et en particulier par rapport à une période de ma vie qui était complètement difficile, qui était vraiment très difficile. J'avais trouvé ce refuge, en fait. J'avais trouvé l'écriture comme refuge pour pallier à des moments de ma vie qui étaient pas faciles.
Donc c'est d'abord passé par la lecture de certains livres avant d'arriver par l'écriture du coup aussi, où tu t'es mis, j'imagine, peut-être à faire
Je crois que c'est les deux en même temps. J'ai du mal. Mais en fait, oui, je dirais que j'écris depuis 2018-2019. Mais sans avoir eu de... Enfin, à la base, c'était pas du tout dans des écritures... dans du romanesque. J'avais pas vocation à comment dire... Oui, c'est ça, écrire du romanesque. Enfin, d'avoir un projet littéraire en tant que tel.
Voilà. Je crois que tu racontes, c'était des fragments, surtout de journaux un peu que tu écrivais, des textes comme ça, personnels. Mais du coup, c'est assez récent finalement. Du coup, t'as découvert même de la lecture et de l'écriture. C'est quel livre qui t'a marqué? Je crois que tu parles d'Edouard Louis parfois en interview. Je sais pas si c'est lui.
Je veux dire, oui, ce qui m'a marqué, en tout cas au niveau de la littérature queer, c'était En finir avec Eddie Bellegueule quand il est sorti. Je me souviens très bien de la sortie, de l'impact médiatique que le livre a pu avoir. Je crois que je l'ai lu, moi, un peu après coup, peut-être un an ou deux après. Je crois que c'était en grand format, il n'était pas encore sorti en poche. Je me disais juste que, ah bah oui, cette littérature-là existe, mais c'est pas Edouard Louis, enfin, du coup, c'est pas ce livre-là qui m'a vraiment donné envie d'écrire, mais c'est je me suis rendu compte que ça pouvait exister, en fait, l'autofiction ou le roman tiré d'une expérience personnelle. Parce que, en fait, à l'école ou à l'université, c'est pas ce type de livre-là, en fait, qu'on nous enseigne, qu'on nous incite à lire. Et en ça, c'était plutôt une surprise à 24 ans, si je me souviens bien, 23-24 ans, de découvrir ce type de texte.
Oui, déjà la littérature queer ou LGBT en général, on l'étudie pas du tout. Pendant longtemps, moi j'ai cru que ça n'existait pas pratiquement, enfin, avant de découvrir justement certains dont, avec lesquels on compare son nom m'échappe alors que c'est un de mes auteurs préférés, qui a écrit à l'ami Hervé Guibert. On a parlé aussi de Guillaume Dustan, et c'est vrai que c'est des gens qu'on découvre sur le tard finalement, parce qu'on c'est tout un pan de littérature qui inexistant pour des jeunes, pas encore queer, mais qui se découvrent queer en tout cas.
C'est ça. Mais même Guillaume Dustan, moi je l'ai découvert au moment où je commençais à écrire.
Ah oui.
Et en partie sur des textes qui pouvaient s'apparenter à ce qu'est devenu Photo sur demande. Et en fait, ça, pour le coup, la découverte de Guillaume Dustan, ça m'a un peu conforté dans l'idée que je pouvais faire quelque chose avec ça. Avec mon histoire, qui n'est pas sensationnelle, mais qui était quand même, je pense, assez singulière au moment où je la vivais. Guillaume Dustan, entre autres, m'a aidé dans l'écriture, je crois, ses lectures.
Ce qui t'a aussi aidé du coup dans l'écriture, c'est le master de littérature que t'as fait au Havre. Enfin, le terme exact, c'est pas de littérature, c'est le master
de création littéraire
du Havre, du coup.
C'est ça.
Mais avant ça, t'avais fait des études d'anglais comme ton personnage, je crois, dans le livre, ou de langue en tout cas, si je pas de bêtises.
J'étais voué à devenir prof dans l'éducation nationale. Donc je passais le CAPES. Et je n'avais vraiment pas du tout envie de finir à Créteil. Voilà. Je n'avais vraiment pas du tout envie de finir à Créteil. Et au-delà de ça, je pense que pendant mon année de CAPES, j'étais en train de perdre mon père, je n'avais pas d'argent. Et je n'étais plus je n'avais plus l'énergie possible d'étudier sans penser à ce qui était primordial pour moi, c'est-à-dire me loger et manger, quoi. Voilà. Donc je vivais de briques et de broc à ce moment-là, quoi.
C'est ce qui se retrouve dans ton livre, parce que du coup, ça, c'est une grande partie de la vie de ton personnage narrateur. Du coup, à quel moment t'as eu la possibilité de penser à cette autre voie, du coup, qui s'offrait à toi? Comment t'as pensé justement à ce master-là? Est-ce que c'est quand justement ça a commencé à se stabiliser, j'imagine, un tout petit peu plus cette période-là?
C'était au deuxième confinement, en fait. Donc j'écrivais de mon côté déjà, mais c'était pas un livre. C'était juste des paragraphes, des pages, éventuellement des nouvelles. Enfin, même s'il n'y avait pas de chute, mais voilà, enfin un texte, on va dire un texte sans chute. Et je me suis réveillé un matin. Je crois que c'était en janvier, et j'ouvre mon téléphone, et là je scroll et je vois un article, jeune romancière, Shana Dad, sort son premier roman chez POL, donc je clique, donc en plus 24 ans, très jeune âge, et là en fait il y avait mention du master de création littéraire dans l'article, donc comme quoi voilà, elle sortait de ce master-là, et que ce qui l'avait mené à la publication. Et je me suis renseigné ensuite sur Internet, où j'ai trouvé le site tout simplement du master. Et puis, je crois qu'ils faisaient une pub pour les candidatures pour la prochaine promotion en septembre. Et du coup, je me suis dit, j'ai 4 mois éventuellement pour candidater, pour composer un corpus de textes. Et en fait, j'ai écrit un texte vraiment pour la candidature.
D'accord.
Donc, qui se retrouve dans le livre. Qui est d'ailleurs à la moitié maintenant, que c'est même pas le début.
D'accord.
Et que j'ai gardé, parce que je me suis dit, si j'étais sélectionné avec ce texte-là, ça quand même bête. C'est ça.
C'est quel passage?
C'est le passage, un passage où il se retrouve avec un garçon chez lui, dans la maison de ses colocs, et avec qui il a une relation sexuelle. À la fin de la relation sexuelle, il lui avoue qu'il a, voilà, qu'il a le VIH. Mmh. Mais au moment, enfin, ce qui est particulier dans cette annonce-là, c'est pas qu'elle se fait pas à tête reposée autour d'un café, c'est qu'elle se fait pendant l'acte sexuel. Voilà. Mmh. Et ce qui est juste désarçonnant en fait, et que je voulais retranscrire cette manière d'être désarçonné par le fait d'avoir une discussion là. À un moment, on est censé un peu se vider la tête, quoi. Voilà. Entre guillemets.
Je le dirai forcément du coup dans l'introduction, mais donc il raconte l'histoire d'un jeune étudiant qui tombe dans la précarité et qui, pour s'en sortir du coup, ne voit pas d'autre solution que de se prostituer sur certains sites du coup avec d'autres hommes. Ouais. Et en même temps, on suit du coup aussi ses errances amoureuses et son désir de trouver quelqu'un. Et en même temps, il y a aussi les aléas de la vie et donc du coup la mort de son père. Et donc du coup, tous ces détails, donc les gens qui écoutent le podcast comprendront qu'ils sont du coup inspirés. En tout cas, une grande partie de ces détails de ta vie, peut-être pas tous, mais une grande partie. Ouais. Et c'est vrai que c'est un premier roman qui est très très fort, qui est du coup assez personnel. Et je me demandais, donc c'est pour ça que je me disais, comment t'arrives à mettre à distance ça en même temps, à ne pas trop te perdre, parce que j'imagine que ça va être compliqué. En même temps, je me disais, quand c'est un premier roman, est-ce que c'est pas forcément l'œuvre la plus personnelle d'un artiste aussi, parce que c'est la première et peut-être unique chance. Et je me sens qu'on met beaucoup de soi aussi dans ces premières œuvres-là. Mmh. Est-ce que c'était aussi du coup pour toi facile finalement de parler de cette époque-là, et ça t'a permis peut-être aussi de mieux vivre cette époque-là, je sais pas.
Moi je dirais que la distance que j'ai s'est trouvée lorsque
Ajouter le romanesque.
Non, ouais. J'avais plus dire en fait, j'avais plus parler du dispositif d'écriture que j'ai choisi.
D'accord.
C'est-à-dire de délaguer toute forme de psychologisation, de ne pas être dans l'explication de texte, ce qui peut arriver parfois dans certains romans. Enfin, je sais que c'est les lectures en général, moi, qui m'attirent sont dépourvues de dépourvu de misérabilisme, quoi. Voilà. Et c'est comme ça, je pense, qu'on trouve la distance, parce que c'est quand même un sujet qui est pas simple. Mmh. Et en fait, si l'écriture se perd dans des explications de pensée, dans du flux de conscience, un peu pathos, quoi.
Ouais.
En général, moi, je trouve ça ultra mauvais. Dans les livres dont j'étais réellement le titre, mais ça m'arrive, ouais, enfin, heureusement que c'est rare, mais c'est quand même ça m'est arrivé de tomber, et en fait je me suis dit ça c'est exactement ce que je veux pas faire. C'est exactement ce que je veux pas faire. Donc je crois que les auteurs que j'aime, alors j'ai pas essayé de les copier, loin de là, mais en fait je me suis dit j'ai compris comment marchait leur écriture. Mm-hmm. Et en effet, en général, la psychologisation est complètement absente.
Mm. Oui, parce que souvent c'est un peu leur en tout cas pour Guibert par exemple, c'est ses journaux intimes qu'il a retravaillé. Mm. Et du coup, quand on est dans un journal intime, on raconte un peu sa journée, mais on va pas forcément analyser, enfin certains le font peut-être, mais et toi c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'en lisant ton livre, je vois que c'est en fait tout est dit de manière très simple, mais en même temps on voit que c'est très réfléchi, que c'est très et du coup c'est vrai qu'il y a pas de ton personnage fait ce qu'il fait, mais il se questionne pas sur ce qu'il fait en fait, à part il y a juste un passage à la fin où il explique ce qu'il aime pas dans certaines des relations avec certaines des personnes avec qui il est. C'est le seul passage où effectivement où là on jusque là on savait pas s'il aimait pas ce qu'il faisait, si c'était juste pour vivre, survivre ou pas, enfin et il y a juste ce petit passage effectivement, et c'est vrai que c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait on s'embarrasse pas de non plus de, comme tu dis, de psychologisation ou de choses compliquées ou quoi, et ça permet de suivre l'histoire, et finalement il y a plusieurs lignes dans ce livre. Et du coup, ça permet de les chevaucher, je trouve, un peu les trois. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé très, très beau dans ce livre. C'est le côté très simple. En même temps, on voit que c'est très travaillé et que c'est
visuel. Enfin, pour moi, il fallait que ce soit quelque chose. Enfin, je crois que à partir du moment où je me suis dit tiens, j'ai quelque chose, c'est que j'avais l'impression qu'on pouvait s'identifier au personnage, c'est-à-dire qu'on pouvait être un peu dans sa peau, c'est-à-dire de vivre avec lui les relations qu'il vit. Que ce soit amoureusement ou par rapport ou sexuellement par rapport aux clients qu'il rencontre, et cette attention, on va dire, aux gestes et aux mouvements rend en fait l'histoire visuelle, et c'est ça, enfin, du coup, qui m'intéressait plus particulièrement. Oui.
Oui, justement, le c'est marrant que tu disais ce que justement c'était la réflexion que je m'étais faite, qu'il était très visuel ton roman, et que c'était peut-être inspiré par l'une des intrigues aussi qui est même la principale, enfin l'une des principales, c'est le fait qu'il tombe un jour sur une photo du photographe Peter Hujar, qui a pris en photo un mime qui s'appelle Daniel Schock, qui a fait beaucoup de choses aussi dans sa vie, et ton narrateur, enfin ton personnage, se met à enquêter sur lui parce qu'il trouve rien sur sa vie, et il passe par plein de biais, par des expositions, par des blogs, par des Facebook, enfin bon, par beaucoup de choses, et justement j'ai trouvé que ce qui était génial dans ton livre, c'est que t'arrivais toi aussi quand on le lit, on voit les scènes se dessiner sous nos yeux, et notamment, du coup, j'avais noté deux passages que je voulais lire avec toi, parce que je trouvais que c'était des passages très très simples mais très beaux et qui disaient beaucoup, et je voulais savoir justement à quel point tu avais retravaillé ou pas ces passages là c'était celui-là notamment.
Ok. Nous sommes assis au dernier rang, les lumières s'éteignent, et il me prend la main. Sa manière de saisir mes doigts, de les étirer, me touche. Tout passe par les mains, le geste est souple, elles se mélangent l'une au-dessus, l'autre en dessous. J'interprète son ennui lorsqu'il m'embrasse le cou. On ne regarde plus la scène, plus rien autour de nous, personne, nos yeux se ferment.
Et avec le même personnage, du coup, c'est à la page 124. Du coup, vu que tu as le livre entre les mains, je te laisse le chercher. Et c'est le paragraphe sur quand il te regarde, je crois. Je sais plus, je crois que c'est celui qui est en dessous, non ? Qui est pareil, je trouvais très visuel aussi.
Olie, Louis parcourt mon visage, reste d'abord sur mes yeux, mais c'est le tour complet qu'il fait, comme une boucle, portant une attention particulière à ma bouche. Puis il fronce les sourcils et se fige. J'ai un poil un peu long sur la joue, mais il n'a pas de pince à épiler. Il essaie quand même de me l'arracher avec les doigts. Il me fait aussi la remarque que j'ai un duvet sous la lèvre qui n'a pas fini de pousser.
Je trouvais... Alors du coup, ça m'a fait rire parce que c'est le même personnage avec ces deux paragraphes, et je l'ai pas fait forcément exprès. Mais je trouve que justement, voilà, donc la scène au cinéma, on voit très bien cette... non, c'est au théâtre, c'est pas au cinéma, ouais, c'est au théâtre. Ouais. Et je trouve que c'est très visuel, il y a le toucher, il y a tous ces trucs-là qui... Du coup, on voit cette scène, et à quel point, je me demandais justement, tu avais écrit, réécrit ce paragraphe-là. Est-ce que c'était des. Est-ce qu'il y en a certains qui sont restés tels qu'ils étaient ? Est-ce que tu as déplacé des phrases, déplacé des mots, essayé d'être plus succinct ? Comment tu arrives à avoir cette visualisation-là, justement, comme le photographe un peu Peter Hujar qui traverse tout le livre ?
En l'occurrence, pour ces deux passages-là, donc qui sont très courts, dans mon souvenir, je crois que ce qui a été retravaillé, c'est qu'une question de ponctuation.
D'accord.
Ouais, je crois que je les ai écrits comme ça. Peut-être que certains mots ont changé, mais j'en ai plus le souvenir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la base était déjà là. J'ai rien raccourci, j'ai rien allongé. Enfin voilà. Je crois que dans mon souvenir, c'est ça. Non, il y a d'autres passages qui ont été davantage des fils à retordre pour trouver un rythme cohérent par rapport au reste du livre. Mais oui, c'est des passages de liste. Tous les passages de liste, je les ai soit rallongés, soit raccourcis. Quand j'ai liste, c'est des listes d'actions qui se. Des listes, voilà, par exemple, quand on est dans le confinement.
Ouais, quand t'es chez toi et que tu
vois. Ouais, voilà, ça c'était. J'en ai enlevé, j'en ai rajouté. Au bout d'un moment, je savais plus trop comment faire pour que ce soit pas à la fois intéressant dans le côté visuel. Mais en même temps pas ennuyeux au niveau de la lecture, enfin voilà, donc je crois que j'en ai enlevé certains passages. Ouais.
Et donc ton écriture, du coup, est naturellement assez visuelle, alors c'est pas quelque chose que t'as travaillé forcément?
Ça vient comme... Si, non, je pense que je l'ai travaillé. Mais en fait, il y a un truc qui m'a vachement aidé, en fait. C'est une lecture, j'en parle des fois, parfois, j'en ai déjà parlé en interview ou donc, lors des rencontres. C'est que le premier paragraphe qui commence, donc je vais le lire vite fait.
Vas-y.
C'est « Mes yeux sont verts, parfois le vert se mêle le gris au bleu et le bleu au vert. Mon nez est long et droit, mes lèvres pourpres, souvent gercées par le froid. J'ai la peau claire et les premiers coups de soleil m'apparaissent sur le nez plutôt qu'ailleurs sur le visage. J'ai la pomme d'Adam prominente, je suis plutôt fin et grand. » J'ai les épaules étroites et rentrées. L'une d'elles penche d'un côté. En chaussures, je ne porte que des Doc Martens et des Superga noirs. Je possède aussi une paire de New Balance bleu, blanc et vert que je ne mets pas. C'est le N sur le côté, les côtés qui est vert, la languette blanche et la tige bleue. J'aime les couleurs froides comme le violet, le vert, le bleu. J'ai longtemps cru qu'en pointure, je faisais du 43, alors qu'en fait, je fais du 42. J'ai déjà porté du 44. Ces derniers mois, je me suis laissé pousser les cheveux jusqu'aux épaules et sur Grindr, j'ai téléchargé quelques nouvelles photos. Donc voilà, ça c'est un passage en fait qui est tout simplement ce qu'on appelle un larcin littéraire ou un emprunt de autoportrait d'Edouard Levé.
D'accord.
Qui est en fait un livre, c'est publié aux éditions POL. Et c'est un livre en fait qui donc c'est 100 pages où c'est sur une liste descriptive d'une personne. Donc tout ce qu'il aime, tout ce qu'il peut faire, et en fait, il n'y a pas de narration, et néanmoins, le livre est fascinant.
Digeste,
c'est... je dirais pas digeste, parce qu'il faut vraiment quand même être un peu... Voilà, il faut se dire, on va le lire, c'est incroyable. Enfin, c'est à la fois simple et en même temps, il fallait trouver l'idée. Mmh. Et du coup, oui, pour lancer... moi, je crois que ce livre-là m'a aidé à comprendre, en fait, qu'en effet, une histoire pouvait être... le visuel pouvait être important, le voir ce que le narrateur fait, littéralement dans sa peau. Et ça ne marche pas toujours. Moi, je trouve, on peut s'identifier facilement à un personnage, mais par contre, être à sa place, je trouve que c'est plus rare. Je crois que c'est ça que je recherchais. Et il y a un autre livre qui est un auteur, c'est un livre qui parle d'homosexualité en l'occurrence, qui s'appelle « Je mange un œuf » de Nicolas Page, qui a été publié justement par Guillaume Dustan aux éditions Ballan, me semble-t-il, quand il était éditeur là-bas, où sur 150 pages, 200 pages, pareil, il raconte tout ce qu'il fait, mais au niveau des faits et gestes. Qui va avoir dans sa vie, et en fait ça commence, chaque paragraphe, je pense que je sais pas, il doit en avoir 300 paragraphes dans son livre, chaque paragraphe commence par « je me lève » et finit par « je me couche ».
Ah ouais, d'accord.
Voilà, et je me lève, je prends un café, je prends ma douche, je me brosse les dents.
Sur combien de pages
Sur 200. Voilà.
Avec des paragraphes plus ou moins longs, j'imagine.
C'est assez équilibré, ouais. C'est assez équilibré. Pour le coup, Edouard Levé, c'est un texte sans point. Dans mon souvenir, 100 points à la ligne.
Okay.
Enfin, c'est vraiment un bloc d'une centaine de pages. Et là, pour le coup, non, c'est des paragraphes qui racontent à chaque fois une journée, en fait. Et je crois que le roman se passe sur 2 mois ou un truc comme ça. Donc, du coup, pareil, il faut être concentré. Et pour le coup, là, il y a comme une narration. Pour le coup, c'est peut-être un peu plus narratif qu'Edouard Levé, quand même.
Ça t'a aidé à comprendre comment raconter le quotidien de manière visuelle, du coup, j'imagine un peu.
Mais c'est des exemples extrêmes où c'est clairement de la littérature expérimentale.
Ouais. Oui, ce que
peut-être un peu. Encore, les romans fragments, ça existait avant moi. Mais je pense, par contre, la manière d'écrire par rapport à ces inspirations en fait quelque chose peut-être de plus singulier dans ce que j'ai fait. Voilà.
Comme tu le disais, donc, que tu t'es tout de suite identifié à ces personnages-là, et notamment ces personnages de romans queer, du coup. Et c'est vrai que donc, ton roman, donc, c'est un personnage du coup, queer qu'on suit. Et je trouve ça assez fort aussi comme premier roman, parce que je trouve que c'est une des premières fois où je me suis enfin reconnu en tant que trentenaire, gay, qui vit dans une grande ville, etc., et comme d'autres lecteurs aussi, j'imagine. parce qu'avant toi, il y a eu Edward Lee, mais Edward Lee, c'était sur la période surtout adolescence, donc il y a eu ce roman d'apprentissage, mais plutôt période adolescence. Et avant ça, ben, du coup, on doit remonter dans les années 90 avec Guillaume Dustan, Hervé Guibert. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de renouveau d'auteur. Donc il y a toi, il y a Fatima Das, il y a Panotis Pasco qui est signé chez toi, qui est la même éditrice que toi, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a aussi, je me souviens, Hugo Lindenberg qui avait aussi, il y a quelques années, fait deux romans qui tournent aussi de ces questions-là. Et je trouve qu'il y a du coup un renouveau, mais est-ce que toi, tu as aussi eu l'impression qu'il y a eu un vide pendant quelques années et que là, ça revient un peu et que du coup, c'est des textes assez forts sur le réel? Sur l'autofiction, c'est beaucoup d'autofiction en plus ces textes-là, sur le fait d'être queer. Et j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être 10-15 ans, il y avait Philippe, avant il y avait Philippe quand même Besson, mais c'est fin 2009-2010, ces romans-là. Et, ou est-ce que toi t'as l'impression que c'est juste des romans, comme on disait tout à l'heure, qu'on n'a peut-être pas connus ou vus, et qu'en fait qui existent mais qu'on n'a peut-être pas lus dans nos études respectives?
C'est rigolo parce que je crois que je t'ai réellement de cette éditrice, mais je crois qu'il y a une éditrice qui m'a refusé le texte en me disant de toute façon la littérature queer ça se vend pas tellement.
Ah ouais.
Ouais.
Alors que là les quatre qu'on a cités c'est quand même dans les plus.
Mais c'est ça. Mais après par exemple je pense que Édouard Louis et comment dire, il y a toujours des exceptions. Donc et d'ailleurs tant mieux en fait que des romans comme ça et des ont eu un tel retentissement parce que ça ouvre la voie en fait à d'autres livres justement que d'une certaine manière ça sert les auteurs qui écrivent sur ces questions-là. Donc en fait ce qui est compliqué c'est aussi de rendre ces écrits-là intéressants pour des personnes qui n'appartiennent pas à la communauté, quoi, entre guillemets. C'est d'essayer de faire en sorte que ce soit universel le plus possible, que ce soit pas juste un roman qui puisse, enfin, un roman ou un texte qui puisse parler qu'à certains cas de figure. Et je pense que c'est ça le danger, en fait, de l'écriture queer, c'est qu'en fait ça reste dans un entre-soi. Et ce qui est un peu dommage en fait.
Ouais.
Je crois que si on écrit nos histoires, c'est pour qu'elles soient aussi, lues par le plus grand nombre, mais aussi, pour certaines personnes en particulier et que ce soit pas forcément seulement défini par leur genre.
Et en même temps c'est intéressant ce que tu dis, mais je me disais les auteurs du coup pas queer qu'on lit dans nos études, je pense pas qu'ils se soient posé la question de se dire je vais écrire sur pour plaire à un public qui ne me lirait pas ou connaîtrait pas ce genre. En fait, j'ai l'impression qu'on a brevet de récit quand même hétéro, qui est la norme, et que je suis pas sûr que les auteurs se posent la question de se dire je vais mettre des éléments peut-être plus un peu différents pour plaire à un autre public, je sais pas trop.
Après, je pense pas que ce soit une question de calcul,
mais
c'est pas une question de calcul, mais après, moi j'ai l'impression que c'est une réalité. Après, je veux dire, ça reste subjectif, et puis... peut-être que cette éditrice a tort en l'occurrence, après j'ai l'impression que ça sort pas de nulle part non plus.
Oui, elle doit s'appuyer sur des ventes ou des choses qui existent.
Et puis en effet, j'ai quelques amis où c'est qui sortent des livres sur ces questions-là, et c'est plus des succès d'estime que des succès commerciaux. Donc oui, enfin après je crois en tout cas qu'en écrivant sur l'homosexualité ou peu importe sur des questions de genre qui est en effet peut-être on a davantage une singularité à trouver en fait pour sortir du lot. Et mais après je pense qu'aussi c'est n'importe quel livre, n'importe quel sujet au final.
Et pour finir, je me demandais, donc du coup, je crois que tu as dit en interview, j'ai vu déjà sur France 3, que tu préparais que tu avais déjà commencé à écrire ton deuxième roman et que je crois qu'il y a déjà des allers-retours avec ton éditrice. Est-ce que tu peux peut-être nous dire où tu en es? Est-ce que les thématiques sont... Est-ce qu'on reste dans l'autofiction? Est-ce que tu changes totalement justement d'univers ou...
Non, on va rester dans l'autofiction pour le prochain. Et c'est... Non, en fait, c'est des deux univers qui, en fait, qui se complètent assez bien.
D'accord.
C'est deux univers qui se complètent assez bien. Il y a toujours un rapport à l'image très important.
Découvert une autre photographie de non. Peter
Hujard. Non, c'est... non, c'est... Oui, mais oui, la photo a un lien, toujours. Il n'y a pas d'enquête.
D'accord.
Mais il y a un lien avec la photo. Et c'est... Et on va dire que c'est une... Comment dire? C'est toujours le même narrateur, ou presque. Mais plus jeune, voilà.
Donc, t'appréhendes un peu avec justement le succès de ton premier.
Ouais.
Est-ce que ça influence un peu la manière dont tu vois où écrit le deuxième, ou
non,
pas du tout?
Pas tant que ça, en fait. Le deuxième, c'est écrit avec beaucoup plus de confiance.
Ah.
Parce que, en fait, je pense que mon deuxième est mon premier en réalité. C'est-à-dire que j'avais cette idée-là avant Photo sur demande. Chose que je l'avais pas abouti, en fait, de la même manière. En tout cas, c'était resté un. À une étape de projet non littéraire, en tous les cas. Et que oui, à la base, je pense que je l'imaginais comme un témoignage. Mais finalement, non, ça a pris, on va dire, ça a pris forme de façon plus romanesque. Voilà, en tout cas, il est rendu. il est en lecture. Il y a eu une première lecture de fait clairement le projet est validé en soi par en tout cas par elle. Après, il y avait des petites choses à revoir, et je ne peux absolument pas dire quand il sortira. Il faut laisser un peu, je pense, avec ce livre-ci vivre encore un peu. Mais j'espère dans pas trop longtemps quand même.
C'est un peu comme une deuxième première fois, du coup, vu que c'était ton premier texte que du coup tu sors après.
Ouais, c'est pas vraiment. Oui, c'est ça, c'est pas vraiment. C'est vrai. Ouais, on va dire, c'est les premières ébauches de. Enfin, les premiers écrits que j'ai pu faire. J'ai pu expérimenter dans l'écriture, en fait, était sur le sujet du deuxième.
Voilà. Peut-être qu'on se revoit pour un autre épisode de ta nouvelle première fois, qui sortira bientôt. Ta deuxième fois, du coup. Merci beaucoup, Simon, en tout cas, c'était très chouette. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Toute Première Fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.